Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons parler de Hanouka par le biais d'une Gemara dans le traité de Shabbat à la page 21. Le traité de Shabbat, c'est lui qui va parler de Hanouka. Il n'y a pas de Gemara spécifique à Hanouka. On a relié en fait Hanouka au Shabbat. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des sujets similaires, c'est-à-dire les mèches et les huiles pour allumer la lumière du Shabbat. Mais en profondeur, la raison est encore plus intéressante, c'est parce que Shabbat et Hanouka sont un petit peu du même niveau. Je veux dire par là que Shabbat et Hanouka dépassent la nature qui est bloquée dans un système. C'est comme si c'était un degré hors nature qui arrive dans notre monde. Et le Shabbat et Hanouka sont liés tous les deux au chiffre 8, c'est-à-dire au chiffre qui est relatif à l'infini. Nous savons que le chiffre 7 est lié à la nature, et ce qui est au-dessus de la nature, c'est le chiffre 8. Shabbat, ce n'est pas le septième jour seulement. Vous voyez que dans le Shabbat, il y a d'abord un chiffre, le septième jour, mais il y a un nom. C'est le seul jour dans la semaine qui possède un nom. Tous les autres jours de la semaine ne sont que des chiffres. Et donc, le chiffre, effectivement, c'est le 7, mais le nom Shabbat donne une dimension supplémentaire qui est relative, comme je l'ai dit tout à l'heure, au chiffre 8. Donc il faut découvrir en fait le Shabbat dans le septième jour. Il faut découvrir le 8 qui se cache dans le 7. C'est de cet ordre-là que descend la lumière dans ce monde, la lumière de Hanouka. C'est comme si l'infini descendait dans ce monde, le chiffre 8 descend dans le monde de la nature, et il apparaît dans les lumières de la menorah que nous allumons. Donc nous allons nous référer à ce que nous enseigne la Gemara concernant Hanouka, et nous allons essayer de comprendre ce que veut dire cette fête. Quel est le sens profond de cette fête? Maï Hanouka. La Gemara pose la question d'abord, qu'est-ce que Hanouka? Et elle répond tout de suite, de Tanoura Banan, nous avons une Mishnah qui nous enseigne, Bekafhe Bekislev, le 25e jour du mois de Kislev, Yomei de Hanouka Temania Inun. Il y a des jours de Hanouka au nombre de 8. De l'Alemisped Behon, on n'a pas le droit de faire pendant ces jours-là des oraisons funèbres. Ou de l'olehit anonut behon. Et on n'a pas le droit de se mortifier, de jeûner pendant ces 8 jours. Pardon? Shekshenichnesu yevanim lahechal. Lorsque les Grecs ont pénétré dans le Hechal, timu kol hashmanim shebahechal. Ils ont souillé toutes les huiles qui s'y trouvaient. Et lorsque la royauté de la maison des Hashmonaïm a eu le dessus, ils ont vérifié, ils ont trouvé une fiole d'huile qui est restée avec le sceau du grand prêtre. Et il n'y avait pas assez d'huile si ce n'est que pour allumer un jour. Na'asa bones, il y a eu un miracle, veidliku mimeno shmona yamim. Et on a pu allumer de cette même fiole d'huile 8 jours. Voilà la donnée de la Gemara. Dans cette donnée de la Gemara, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très claires. Et on va essayer de voir ensemble ce qui est d'abord dans un langage qui n'est pas complètement cohérent, ou bien ce sont les sages qui voulaient nous enseigner quelque chose au-delà du premier sens du texte. Alors maintenant, nous allons faire attention aux mots. Les sages d'Israël connaissent l'hébreu parfaitement. Donc s'ils utilisent des termes, c'est qu'ils ont une raison qui, au premier degré, peut nous dépasser. Mais dès qu'on fait attention, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de secret dans les lettres et les mots choisis par nos sages. Donc si maintenant je commence à faire attention, à être précis, à descendre dans une résolution un peu plus pointue dans l'expression que les sages ont utilisée pour décrire Hanouka, regardez ce qui est écrit. Bekafhe Bekislev. Il y a une date, le jour du 25e, du 25 Kislev. Yomé, il y a des jours, des Hanouka de Hanouka, Tmania Inun, au nombre de 8. Je pose la question, est-ce que quelque chose vous choque dans cette manière de s'exprimer? On aurait pu dire,
il y a 8 jours.
Et alors quel est le problème? Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu dis qu'il y a une date et on parle de 8 jours.
On aurait pu dire de cette date à cette date. Enfin...
Nachon. En fait, la Gemara aurait dû dire à partir du 25e jour du mois de Kislev, on doit compter 8 jours. Mais là, qu'est-ce qu'elle est en train de dire?
Il y a
8 jours. Qu'il y a 8 jours dans le 25 Kislev. Ça change tout. Vous connaissez, vous, un jour qui contient 8 jours? Ou bien, ce jour-là, il est en dehors du système des comptes. Généralement, un jour contient un jour, lui-même. Comment est-ce qu'un jour peut contenir en lui 8 jours? Et s'il contient 8 et pas 7, puisque 7, c'est la nature... 8, c'est l'infini. Donc, le 25e jour du mois de Kislev contient l'infini. Vous comprenez que le premier jour de Hanouka est un secret en soi. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de très, très profond dans cette journée qui, à elle seule, est capable de contenir, en fait, l'infini, de dépasser les notions de temps. Quel?
25, c'est la date de l'événement à laquelle il s'est passé?
Pour l'instant, je lis la Gemara. C'est comme si on ne connaissait rien. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé le 25e jour du mois de Kislev? On est arrivé au Beth Amikdash. C'est-à-dire, il y a eu la fin du combat. On a battu l'Empire grec. Mais pour l'instant, la Gemara n'en parle pas, en tout cas pas dans la ligne que je viens de vous lire, qui, elle, avait déjà un problème d'expression, si ce n'est que les sages veulent nous enseigner quelque chose de secret que je viens de vous révéler. Donc il est un jour dans l'année qui n'est pas dans le système temporel. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, mais pour l'instant, on s'occupe de Hanouka. C'est-à-dire, il y a dans l'année des moments qui ne font pas partie du moment. Ils sont au-delà des temps. Par exemple, quand je commence à parler, avant d'avoir commencé à parler, j'ai mis un temps de silence. Le temps de silence qui a précédé mon verbe contenait toutes les paroles que je vais dire pendant le cours. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que l'instant de silence qui a précédé le cours contenait déjà tout le cours. Il ne fait pas partie du cours. C'est le cours. S'il fait partie du cours, c'est que c'est un petit moment du cours. Tout le cours. Tout le cours est dans ce moment. C'est-à-dire dans le silence qui a précédé le concert. Il y avait déjà tout le concert. Il ne fait pas partie du concert. Il est lui-même le concert, mais à un autre niveau. Où toi, tu n'es pas encore capable de l'entendre. Mais il est déjà. Quel?
C'est pas lié avec la lutte avec les Grecs, parce que les Grecs, ils avaient des arguments quand même. C'est-à-dire, ils étaient capables de commencer à définir toutes les lois de la nature.
Tout à fait.
Donc le huitième jour, ça a mis un point d'arrêt pour leur montrer que ce qui est indéfinissable, d'éternité, ils ne pouvaient pas définir.
D'accord. Ça veut dire que là, tu touches déjà un deuxième point qu'on n'a pas encore introduit. Mais, il faut le savoir, à chaque fois que nous avons affaire à une fête dans le calendrier hébraïque, sachez qu'il y a une force contradictoire qui arrive en même temps que la fête. Et si je ne sais pas me battre contre cette force contradictoire à l'énergie que je dois gagner de la fête, eh bien, la fête me passe au-dessus de la tête. Nachon. Avant Shabbat, il y a un combat. Avant Pessah, il y a un combat. Avant Pourim, il y a un combat. Vous rappelez, chacun a un nom bien précis. Avant Pessah, c'est l'Égypte. Avant Pourim, c'est Amalek. Ça veut dire que chaque fête vient avec son ennemi. Celui qui va m'empêcher, en tout cas essayer de m'empêcher, de gagner ce qui se cache dans ce temporel de la fête. Donc si à Hanouka, je ne comprends pas et je ne connais pas, parce que je n'ai pas étudié mon ennemi qui est Yavan, la Grèce, eh bien Hanouka, ça va rester juste une fête où je mange des beignets. Alors je vais allumer, je vais faire tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas la profondeur, parce que tu n'as pas étudier ton ennemi. Or, l'une des possibilités de gagner nos ennemis, c'est d'avoir une étude les concernant. Da et ha'oyev. Si tu ne connais pas le système de fonctionnement de ton adversaire, tu ne peux pas le battre. Betachboulot ta'asel chamilchama. Donc, il faut faire la guerre en étudiant nos ennemis.
Il n'est pas déjà gagné le combat ?
Il est aux trois quarts gagné, une fois que tu as compris le système. Après, maintenant, il faut l'appliquer. Ça aussi, ça compte. Mais tu as raison, l'essentiel, c'est d'abord de comprendre le développement, le système de fonctionnement de l'autre. Eh bien, avant de rentrer à Hanouka, nous devons comprendre le système de fonctionnement de ce que représente la notion grecque. Qu'est-ce que c'est qu'Yavan, à part être une nation?
On le voit avec Yaakov et Esav aussi.
Nachon.
Il prépare le combat.
Tout à fait. Tout à fait. Même en faisant des stratégies de paix, c'est une façon de voir la réaction de l'autre, comment il va faire. Pardon ?
S'il est si mal que ça,
pour l'instant, je n'ai pas dit qu'il était si mal que ça. Je n'ai même pas donné de définition mal ou bien. J'ai dit, c'est un ennemi qui empêche la lumière de Hanouka de se révéler. Il y a fait. Parce qu'en réalité, je n'ai pas encore défini l'ennemi. Cet ennemi n'est pas comme les autres. Il est vicieux. Il a quelque chose en lui que je peux gagner, que je peux garder. Et il y a quelque chose en lui que je dois écarter. Ce n'est pas blanc ou noir. Dans cet ennemi, il y a quelque chose de bénéfique. Et donc, je dois savoir utiliser cet ennemi. Là, en te disant ça, tu as rentré l'ennemi dans ce que toi, tu connais de tous les ennemis. C'est-à-dire, pour moi, un ennemi égale à tuer. Non. Ben oui, tu viens de dire, il faut l'écarter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet ennemi a une spécificité que si, par exemple, je l'élimine complètement du jeu, j'ai perdu moi aussi. Donc, il y a ici une stratégie très importante, très délicate, presque vicieuse, à jouer avec la Grèce, avec les Grecs, avec la Grèce. C'est un esprit qui peut être utile à Israël à une condition. Où est-ce qu'apparaît Yavan dans la Torah? Qui c'est Yavan? Oui, mais qui c'est? C'est le fils de Yéphet. Yéphet qui était un des trois fils de Noar. Et qu'est-il écrit concernant ce fils de Yéphet? En tout cas, de Yéphet lui-même. Yaft Elohim le Yéphet. Donc le nom de Elohim apparaît juxtaposé à Yéphet. Ça veut dire que si Yavan, la Grèce, est l'enfant de Yéphet, le nom d'Hachem qui correspond à cette qualité, c'est Elohim. Et quelle est la qualité de Elohim? La nature. Et c'est pour ça que les sages nous disent que le nom de Elohim est en valeur numérique 86 comme la valeur numérique de la nature, Hateva. Donc j'ai déjà une information très importante. Yaft Elohim le Yéphet. Donc il y a déjà le nom d'Hachem, un des noms, c'est déjà pas mal, qui est relié à Yéphet. Et la suite du verset, Veishkon Be'ahole Shem, à condition qu'il se place, qu'il réside, ce Yéphet, à côté des tentes de Shem. Or, Shem, c'est Israël. Ça veut dire que Yéphet est bon, il n'est pas obligé d'être mauvais, donc la Grèce n'est pas obligée d'être si mauvaise, à condition qu'elle accepte de s'installer dans son système de réflexion à côté d'Israël. Si la Grèce reçoit qu'Israël a quelque chose à donner au monde, qui vient d'un degré qui est au-delà de Elohim, au-delà de la nature, alors la Grèce devient quelque chose de bénéfique. Si elle ne s'installe pas, cette Grèce, à côté d'Israël, il y a un problème. Quel? Pas seulement Pessah, Purim et Hanouka, toutes les fêtes. J'ai donné juste un exemple en citant ces trois. Mais à toutes les fêtes du calendrier, si je ne connais pas mon ennemi qui vient en même temps que la fête, je ne peux pas réellement vivre la fête. D'accord? Et donc c'est dommage, parce que sur 100% de possibilité de bénéficier de ce que la fête m'aura donné, je vais vivre peut-être 2%, 3%, 10%. C'est dommage. C'est un gaspillage. Je n'ai pas de profit. Donc, c'est une clé. Gardez-la pour votre vie. À chaque fois qu'une fête arrive dans le calendrier, posez-vous la question: quel est l'ennemi qui est lié à cette fête? Et donc, qu'est-ce qu'il vient éteindre chez moi? Qu'est-ce qu'il veut empêcher chez moi? Qu'est-ce qu'il veut empêcher que je gagne de cette fête? Au moment où tu as compris cela, tu fais un combat contre cette force-là et tu rentres dans la fête avec tout le bénéfice que tu peux gagner. Ça, c'est général. Le stress d'avant les fêtes, c'est quelque chose de général. Mais ce n'est pas lié. C'est pas lié à la fête elle-même. Oui, mais ça, c'est un Yetzerara global, on va dire. L'ennemi qui est lié à la fête est plus subtil que ça. Donc il faut l'étudier. Donc en fait, l'essentiel de Hanouka, c'est d'étudier quoi? La Grèce. L'ennemi. D'accord? 5 secondes. Il y avait avant vous. On peut savoir. C'est pour ça que nous sommes là pour étudier. À chaque fois que la fête est représentée ou dans la Torah, ou dans la Gemara, ou dans n'importe quel endroit, il y a toujours le nom de l'ennemi qui apparaît. Mais vadaï, Yom HaKippourim, c'est en réalité quoi l'ennemi? De ne pas pouvoir monter au 8e degré, de rester dans le 7e degré de la nature. Même si le Satan ne travaille pas Yom HaKippourim, un homme ou une femme qui ne fait pas partie, qui ne rentre pas dans cette notion de la Neshama collective d'Israël, il rate un petit peu cette journée. C'est dommage. Et donc, il y a une forme d'ennemi. Il faut savoir comment l'appeler. D'accord? Ken?
Alors, pareil, c'est-à-dire si Hanouka est lié à l'éternité sous le chiffre 8 et Shabbat, c'est-à-dire c'est lié directement à l'arbre de vie.
Exactement. Hanouka, c'est l'arbre de vie. Je vais te dire mieux, c'est la lumière qui a été cachée après le premier Shabbat de la création du monde.
Donc on a les anges de feu devant, on ne devrait pas pouvoir entrer.
Léat, ça c'est le jardin d'Éden, c'est pas pareil. La lumière qu'on appelle Or Haganouz a servi durant 36 heures. Le premier homme a été créé vendredi, le 6e jour. Il a été créé le matin, pas la nuit. Donc une journée entière à 24 heures, on enlève déjà 12. Donc il y a 12 heures depuis la création de l'homme jusqu'à l'entrée du Shabbat, plus le Shabbat tout entier. Shabbat tout entier, 24 heures. 12 heures du vendredi, 24 heures. Plus 12, 36. Ça veut dire que cette lumière a servi malgré la faute du premier homme, parce que l'homme a fauté le 6e jour. Mais Akadosh Baruch Hu ne voulait pas encore enlever cette lumière, elle a servi donc pendant 36 heures. Une fois que cette lumière a servi 36 heures, on est arrivé au Motsae Shabbat, la lumière s'est éteinte. On n'a plus aujourd'hui dans le monde la lumière que le premier homme a vue durant 36 heures. C'est la lumière de Hanouka. Combien de lumières tu allumes à Hanouka? 36, en tout et pour tout. En enlevant le shamash. De là est venue des expressions chez nos amis. Il a vu 36 chandelles. Les 36 lumières de Hanouka, ce sont en réalité les 36 degrés qui nous font le lien avec la première lumière qui a été gnouza, cachée. Et maintenant, elle se révèle.
C'est lié aux 36 justes cachés, alors.
Exactement. Les 36 justes qui sont cachés dans le monde sont en réalité représentées par les 36 lumières que tu auras allumées pendant les 8 jours de Hanouka. Je peux rappeler, expliquer. J'ai expliqué que Adam est né le 6e jour. Il est né le jour et pas la nuit. Donc on compte que 12, plus les 24 heures de Shabbat. Tout ce temps-là, 12 plus 24, 36 heures, la lumière a servi dans le monde. Qu'est-ce que c'est que cette lumière ? C'est une lumière qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qui servait à voir de l'infini jusqu'à l'infini. Une totalité. C'est une lumière qui permet une intelligence qui dépasse l'entendement humain, qui guérit, qui soigne, qui est bénéfique, qui donne une simcha, qui donne tout ce que vous avez envie d'arriver à avoir dans votre vie, il y avait dans cette lumière. Vous comprenez bien que lorsque Motsaé Shabbat, Adam a perdu cette lumière, il est tombé en dépression. Et c'est à partir de ce moment-là que l'humanité tout entière cherche à récupérer cette lumière. Cette lumière nous arrive à nous, le peuple d'Israël, pendant les 8 jours de Hanouka. Je suis en train de vous placer la fête de Hanouka à une autre dimension que vous connaissiez jusqu'à maintenant. C'est pas tu es parti à la Macolette pour acheter quelques veilleuses, tu les allumes, tu regardes un petit peu la lumière, tu manges un beignet, tu vas dormir. C'est pas ça. Tu es en train de faire descendre une lumière qui est de l'au-delà. Plus même, tu es en train de faire descendre à Kadosh Baruch Hu lui-même, qu'on appelle Kodesh. Et d'ailleurs, tu le dis. Hanerot halalu, Kodesh hem. Ve'en lanu reshut leishtamesh ba'em. Ela lirotam bilvad. Ça veut dire que ces nerot ne sont pas Kadosh, elles sont Kodesh. Vous voyez la différence entre Kadosh et Kodesh? Kadosh, c'est sainte, des lumières saintes. Je n'ai pas dit ça. Hanerot alalu kodeshem. Ces lumières, ces veilleuses, ce feu, c'est le Kodesh lui-même. Ça fait peur. Et ce Kodesh, il descend où? Dans notre monde. À quel niveau? Nous disent les sages dans la Gemara qu'il faut allumer ces veilleuses à moins de 7 poignées du sol. C'est-à-dire à un niveau de encore plus bas qu'un tabouret. Pourquoi? Pour mentionner le fait que cette grande lumière immense descend à un niveau très très bas. On n'a pas le droit toutefois de dépasser 3 poignées du sol. Car là-bas, il n'y a pas encore de sainteté qui puisse pénétrer encore parce que notre monde n'est pas encore entier. Donc, entre 3 poignées du sol et 7 poignées, voilà l'endroit où il faut poser la menorah. À la fin des temps, vous comprenez, d'après ce que je viens de dire, que la lumière atteindra le sol lui-même. D'ailleurs, on a un jour comme ça dans l'année. Lag Baomer. Lag Baomer, on allume un feu où? À même le sol. C'est-à-dire que la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar, touche le sol. C'est la seule Torah qui peut pénétrer notre monde sans aucune crainte. Donc en fait, Lag Baomer, c'est Hanouka perfectionné. Et là-bas, on allume un grand feu. Alors, qui est l'ennemi à Lag Baomer? Tous ceux qui sont contre l'étude de la Kabbalah. Voilà les ennemis de Lag Baomer. Ken?
Ah,
et
pas déjà une
doucha
dans la terre d'Israël?
Mais même avec la doucha de la terre d'Israël, la sainteté ne descend pas, mais olam lo yarda shrina mitachat les shlosha tfachim.
C'est dans la terre même, en Israël.
Nachon, mais la sainteté de la shrina ne descend pas à cette distance seulement au moment de la révélation totale. Comment est-ce qu'on aura l'expression de la révélation totale? Le Beth Amikdash. Qu'est-ce que c'est que le Beth Amikdash? C'est le minéral, donc des pierres, plein de Kodesh. Donc il va être posé sur le sol. Donc le Kodesh de l'infini sera posé sur la terre. On est d'accord? Le monde minéral, le monde le plus bas, des morceaux de pierre, vont contenir l'infini. Rappelez-vous que dans le désert, le temple était fait de quoi? De bois et de peau animale. Ça veut dire qu'on n'arrive pas encore aux pierres. Plus on avance dans l'histoire, plus le minéral va entrer en jeu. Et lorsque la sainteté va s'habiller dans des cailloux, c'est la fin des temps. Ça, c'est très important de le comprendre.
Alors pourquoi on a préféré faire des sacrifices dans le temple plutôt que sur des pierres?
Parce qu'on n'avait pas la possibilité, on était encore en dehors de Eretz Israël. En Eretz Israël, les sacrifices, ils sont sur la terre. C'est la pierre elle-même, c'est le minéral.
Alors,
ça veut dire que c'est la fin. Parce qu'il y a des éléments différents dans le temple. Il n'y a pas que ça. D'où est-ce que la lumière du Beth Amikdash va sortir? D'où est-ce que je reçois, moi, la lumière chez moi, dans ma vie? De la menorah du Beth Amikdash. Donc la menorah, elle est à l'intérieur du Echal. Je ne peux pas me suffire que du Misber. Ken?
Cette lumière qu'il a vue dans le Misber,
Ken.
On va la voir après.
Ken. Dans le Olam Hazeh. Le Olam Abba, c'est le monde caché dans le Olam Hazeh. Donc tu verras cette lumière. On verra cette lumière. On va utiliser cette lumière, en fait, pour vivre comme l'Éternel voulait que nous vivions au départ. Et pas comme nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, on est décalé.
Et au Gan Eden
maintenant. Okay. Mais c'est le Gan Eden, le véritable Gan Eden, plus élevé encore que le Gan Eden, est la terre d'Israël. La terre d'Israël prépare. Le Gan Eden prépare à la terre d'Israël. Ça veut dire que Eretz Israël est encore plus élevé. Regardez ce que dit le Rav Harlap dans Ma'ayane à Yeshua concernant ce Inyan. J'ai déjà donné un cours ici même. Vous pouvez rentrer dans les cours du Machon Meir et vous allez voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voyez un nom et vous dites un autre. On est d'accord? Vous voyez le tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke, et vous ne le dites jamais. Vous dites Adon. D'accord? Pourquoi? Un enfant qui ne sait pas lire, quand tu le fais voir Yud, Ke, Vav, Ke, il a envie de te dire Yeho. Hein? Et tu lui dis non, il ne faut pas dire ça. Et il te regarde, il te dit mais pourquoi c'est ce qui est écrit? Eh bien, la Gemara pose la même question. Elle dit, pourquoi nous voyons quelque chose et nous lisons autre chose? Il dit, parce que notre monde n'est pas encore capable de recevoir le tétragramme. Donc, au lieu de le dire, on ne fait que le voir, mais on dit autre chose. Mais un jour viendra, Bayom Ahou, Yé Hashem Echad, ou Shmo Echad. Ce que tu verras et ce que tu diras sera un. Il n'y aura pas de décalage. Ça, c'est Hanouka. Comme c'était dit au Beth Amikdash. Shema Meforash. Ayotse Mipi Kohen Gadol. Ken. Il y a fait, on n'a même pas commencé. Vous avez tellement posé de questions que pour l'instant, je n'ai même pas commencé le texte. J'ai juste raconté une Gemara. Si c'est le bon moment, et aux bonnes personnes, et au bon endroit. Si ce n'est pas le moment, tu brûles. Est-ce que tu peux dire tout ce que tu veux, n'importe quand? Non, il y a fait. Donc tu as la réponse à ta question. Il faut savoir à qui je m'adresse et quel est le degré que je peux enseigner et quel est le degré que je ne peux pas. Pas parce que il ne va pas comprendre, parce que je risque de le tuer. Car si je m'adresse à quelqu'un qui n'a pas les ustensiles de recevoir le message que je suis en train de lui donner, je vais faire plus de dégâts en lui donnant la chose qu'en la gardant chez moi secrète. Mais à un moment donné, la personne est capable de recevoir, donc le secret qui était hier n'est plus un secret aujourd'hui. C'est là?
Okay. Est-ce que chaque jour de Hanouka est pareil? C'est-à-dire, est-ce que même le 26, il en compte 8 jours?
Léat. Tu es en train de déjà avancer, mais c'est une bonne question. Pour l'instant, nous avons vu que le premier jour de Hanouka, donc la première nuit, on va allumer la première lumière. Elle contient déjà 8 jours. C'est énorme. Donc on a dit que le 25e jour de Kislev contient le tout. Ok, comment est-ce qu'on dit 36 en hébreu, en lettres? Lamed Vav. Comment on dit cacher? Les chassot, couvrir. Kissoui. On est d'accord? Comme kiss, une poche. Kiss, c'est pour cacher. Donc, si je cache les 36, j'écris le mot kiss, lève. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que c'est kiss, lève? C'est pas le nom du mois, c'est un code. C'est la cachette des 36. Magnifique. Ça veut dire que dans ce mois se cachent les 36 lumières. Et il faut une génération qui va être capable un jour de révéler ça. Et Baruch HaShem, ça s'est passé. Parce que le peuple d'Israël est prophète. Et donc il a reçu la prophétie de dévoiler cette grande lumière qui se cachait dans ce mois de Kislev. Donc le 25e jour, c'est quoi le 25e jour? Comment est-ce qu'on dit 25 en hébreu? Kafhe. Donc, qu'est-ce que c'est Hanou Kafhe? Hanouka. Hanou, ils ont trouvé un parking, un stationnement. C'est-à-dire, on s'est arrêté, on a compris, quelque chose est arrivé dans ce monde. Kafhe. 25. Magnifique. Donc le mot Hanouka veut dire la lumière a stationné, elle a trouvé en fait une assise dans le monde. Si vous comptez le 25e mot à partir de Bereshit. Bereshit, bara, Elohim, et, hashamayim, ve'et, ha'aretz, ve'ha'aretz, haïta, tohu, vavou, ve'choshech, al, pene, tehom. Hein? Quand j'arrive au chiffre 25, quel est le mot? Or, la lumière. Qu'est-ce que c'est que ce or? C'est en fait la première lettre du nom divin. Le premier He, pas le Yud, multiplié par le dernier He du nom divin. Il y a deux He. Le He d'en haut, le premier He, c'est le monde de la Neshama. Le dernier He du nom d'Hachem, c'est le nom du corps. Vous voyez que la Neshama et le corps sont jumeaux. Jumeaux. C'est les mêmes lettres. Et quand tu fais le lien avec ces deux, qui fait le lien entre les deux? Le Vav. Donc tu vis dans le présent. Hové. Et quand tu multiplies en fait le monde d'en haut, premier hé, par le monde d'en bas, dernier hé, 5 fois 5, 25. Comment on dit multiplier en hébreu? Les harpil, kafoul. Donc hé, Mechapel, he. Qu'est-ce que je viens d'écrire? Ha, marpella. Meharata marpella. Qu'est-ce que c'est Meharata marpella? C'est la caverne où le he, mechapel, multiplié par he. Ha, marpella. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la caverne de marpella? Il y a le lien entre le monde d'en haut, des valeurs divines, et le monde d'en bas. C'est pourquoi chaque Neshama qui quitte ce monde doit passer obligatoirement par Meharat Amarpela pour monter. Et tout ceci, c'est dans ta petite maison, dans ta petite chambre, quand? Hanouka. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu demande au premier homme, quand il a fauté, qu'est-ce qu'il lui pose comme question? Ayeka. Qu'est-ce que ça veut dire Ayeka? Où est le café? Parce que si c'était où es-tu, on aurait dû écrire Aleph Yud et Chaf Sofit. Or la Torah n'écrit pas comme ça, elle écrit Aleph Yud, Kaf He. Donc Dieu ne demande pas à l'homme où es-tu, ni où en es-tu, mais il lui demande où est le café? C'est-à-dire pourquoi tu ne fais plus le lien entre les mondes? Et donc Adam Arishon, qu'est-ce qu'il peut lui répondre? À Hanouka. À Hanouka, je retrouverai le café. Lorsque le peuple d'Israël réatteindra cette lumière, ce sera le début de la fin. Donc lorsque le peuple d'Israël a découvert, ou redécouvert plus exactement, la lumière qui a disparu, le Or Haganous, on sera déjà dans un mouvement qui nous rapproche de la fin des temps. Donc en réalité, Hanouka, c'est la fête, par définition, qui restera à la fin des temps. Pourim est encore plus bas que Hanouka dans ce domaine-là, parce que c'était en dehors de la terre d'Israël. C'est pour ça qu'à Pourim, on ne lit pas le Hallel, et qu'à Hanouka, on lit le Hallel durant 8 jours. Aucune fête dans le calendrier hébraïque est au chiffre de 8. Aucune. Ça n'existe pas. Pessah, c'est 7 jours. Soukot, c'est 7 jours. Shemini Atzeret, c'est 1 jour. Il s'appelle Shemini, mais c'est 1 jour. Là, il y a 8 jours, ça n'existe pas. À part Hanouka, il n'y a rien d'autre. Shavuot, c'est 1 jour.
Si on doit étudier notre ennemi, donc on doit étudier l'histoire des Hashmonaim.
Il y a fait. Il nous explique comment. Il y a fait. Ça veut dire que, en fait, toute l'étude de Hanouka, elle est incrustée dans quoi? Dans le Alanissim que vous lisez pendant Hanouka. Alanissim, Valadvorot, Valadchuot, Valanechamot, Chasita lavotenu bayami maem bazman azeh. Alors toi, tu le lis vite, tu te dis, bon, il faut lire ce passage ce matin encore. Ils nous ont rajouté encore, ça va me rallonger la Hamida. Mais en fait, c'est là-bas où est caché tout le code de la fête. Et de Hanouka et de Pourim. Pardon ? Il a fait. Et il faut savoir que cet ennemi, en fait, se réveille avec un nouveau vêtement, c'est tout. C'est le même vêtement, c'est le même ennemi avec un nouveau vêtement. Mais si tu ne comprends pas à chaque fois qu'on te change les X et les Y, eh bien tu rates ton histoire sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et tu le dis en plus, « Bayami ma'em bazmanaze ». Ce qu'il y avait avant, ça se reforme aujourd'hui. Seulement on t'a changé un petit peu les données. Mais c'est la même force. Parce que, justement, on a passé toute la force de Hanouka dans quoi ? Dans le traité du Shabbat. Pour nous dire qu'en réalité, c'est la lumière qui est le Shabbat de l'univers. Yom Shekulo Shabbat. Le jour où on arrivera au Shabbat dans ce monde, c'est la fin des temps. Donc il n'y a même pas besoin de quoi que ce soit d'autre pour nous raconter une histoire. Il faut juste déceler le code qui se cache à Hanouka. Et si tu as décelé ce code, tu as tout gagné. Il a fait, tout doucement, on vient de commencer. Jusqu'à maintenant, tu t'es jamais posé la question, et maintenant tu commences à te poser la bonne question. Bah, Baruch Hashem, ça veut dire qu'on a avancé. Pas complètement différente. Et c'est pour ça qu'il t'a dit tout à l'heure que si on lit la Torah en Grèce, en grec, on est yotze. Je peux lire la Torah Shabbat en grec. Vous saviez ça? Incroyable. Et les Chachamim nous disent que la mentalité grecque, c'est la plus proche du Kodesh. C'est pour ça que c'est aussi vicieux. C'est pour ça que c'est dangereux. Encore plus, c'est un ennemi qui te ressemble, c'est-à-dire, il est comme toi. C'est-à-dire, à chaque fois que tu fais un geste, il fait le même geste. Donc, il te ressemble étrangement. Alors, il faut trouver la faille. Comment je vais faire pour le battre? Maintenant, vous commencez à comprendre l'importance et la responsabilité que nous avons à Hanouka. Et ce n'est plus juste une fête pour les enfants. C'est sûr que c'est pour les enfants parce que c'est pour l'avenir. C'est pour ça que le mot Hanouka est lié au mot Chinour. C'est une éducation, mais l'éducation, elle est pour qui? Pour moi, pour toi. Je dois me rééduquer à comprendre ce pourquoi je fête cette fête. Et arrêter pendant 2000 ans d'allumer des lumières sans rien comprendre. Tu fais plaisir à qui? Tu sais même pas ce que tu fais. Donne les beignets. Et tu peux continuer comme ça pendant 2000 ans. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Pourquoi on ne s'en sort pas? Pourquoi c'est aussi lent le processus? Parce que malheureusement, on est devenu comme des robots de tout ce qu'on fait. Et il est grand temps de commencer à réfléchir à nos fêtes. Il est grand temps de réfléchir à ce qu'on fait et à comprendre le sens profond des choses.
Peut-être le secret est caché dans le fricassé, non?
Le secret, il est caché dans l'huile. D'ailleurs, tu prends un beignet, tu mets juste une veilleuse dessus, il peut durer 20 jours, pas 8. Tellement il y a de l'huile. Et en réalité, je ne rigole pas. Le secret est lié à l'huile. L'huile en hébreu, shemen, c'est la même racine que shmoné, le chiffre 8. Et la même racine que le mot neshama. C'est la même chose. Et d'ailleurs, les acteurs de Hanouka s'appellent les 8. Hashmonaim. Donc ils sont tous de l'ordre du 8. Imaginez-vous un combat entre un homme qui est de l'ordre naturel et quelqu'un en face de lui qui est de l'ordre du surnaturel. Il ne tient pas le type. Il se met devant lui, l'autre il est déjà derrière lui. Paf, il lui met un coup dans la tête. Il se tourne, l'autre il est déjà de l'autre côté. Il ne peut pas l'attraper, il ne peut pas le voir. Il lui échappe, il lui glisse entre les mains. Ça, c'est la force d'Israël. Regardez comment c'est extraordinaire. et comment il faut lire l'histoire et la géographie avec la modernité. Pendant le mois de Kislev, ce n'est pas par hasard, on reçoit le premier avion de combat qui s'appelle Adir, F-35, qui est un avion furtif, on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Il est rempli, rempli de technologies inouïes qui nous donnent, Be'ezrat Hashem, un avantage de 40 ans. Il a un système informatique à l'intérieur qui peut avoir des informations comme si tu avais 200 personnes sur des ordinateurs. Il touche ses cibles sans jamais rater aucune, avec une précision de 1 cm sur des kilomètres de distance. Un truc qui fait peur. On ne comprend même pas. Et qui a rempli toutes ces données informatiques? Israël. C'est-à-dire on a pris un cli et on a mis toute l'intelligence à l'intérieur, bli aynara, et on le reçoit pendant le mois de Hanouka. C'est-à-dire le mois de Kislev. Ça vient nous aider parce que dans ce monde dans lequel nous sommes, il y a encore, jusqu'à maintenant, un combat qui doit être aussi physique. Je te rappelle, en passant, que les Hashmonaïm sont sortis se battre avec des épées. Ils ne sont pas restés à la yeshiva en train de faire comme ça. Ils sont sortis se battre et ils ont battu un empire. Alors que c'était des kabbalistes, tous, et ils auraient pu se dire, on va faire des kavanot et c'est fini. À quoi ça sert de prendre des armes? Mais ils l'ont fait. C'est-à-dire que Hanouka, c'est une fête double, où le miracle est non seulement sur la fiole, mais sur notre capacité aussi de gagner la guerre. Et c'est pour ça que c'est une fête de la fin des temps. Pourquoi c'est pas dans le Tanakh? Parce que c'est au-delà. Les mots du Tanakh sont tellement rétrécis, restreints, qu'ils n'auraient pas pu contenir la lumière de Hanouka et de Purim. C'est pour ça que c'est au-delà. Non, c'est au-delà. Ça veut dire que c'est même les mots du Tanakh cloisonnent l'importance de Hanouka. C'est trop élevé. Nachon, Yitziat Mitzrayim, ça va disparaître à la fin des temps. Donc déjà, vous voulez, quand on arrive à Hanouka, j'allume maintenant, Tachlès, dis-nous, ne nous laisse pas comme ça dans l'espace-temps, dans un espace vide. Okay? On a encore un shiur la semaine prochaine avant Hanouka? Bezrat Hashem. Donc un petit peu de patience, mais c'est bien, ça veut dire que j'ai réussi à gratter chez vous quelque chose qui était coincé depuis 2000 ans en fait. Qu'est-ce que vous alliez faire? Encore acheter des veilleuses et les allumer, c'est tout quoi. Dahka avec les copains, c'est fini. Des petits cadeaux et des petits machins pour ressembler aux autres. Ça finit, c'est fini, Rabotai. Nous sommes à la fin du processus humain. On est en train de passer une porte vers le messianisme d'Israël. Si on ne comprend pas ça, pour moins que ça, ça ne vaut plus le coup de se fatiguer. C'est tout. Aujourd'hui, c'est ça. Le seul but pour lequel vous êtes là, c'est d'accélérer le processus messianique. Et ce processus messianique, il vient par une étude profonde qui fait descendre sur terre des valeurs qu'on a oubliées. Et d'ailleurs, c'est ce que les Grecs ont fait. Dans le Alanissim, qu'est-ce que vous dites? Le'ashkicham mitoratecha. Ils nous ont fait oublier ce qu'on est venu faire. Ken?
On connaît le nom de l'armée des Hashmonaïm?
Ken, bevadai. Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol avec tous ses enfants. C'est pas grand chose, hein? Ils sont en 8.
Ils sont
rien du tout.
Donc c'est un multiple de 36 au final.
Ça veut dire que 8 personnes ont vaincu un empire. Ça te paraît logique? L'empire grec, vous savez ce que c'est l'empire grec? Une petite famille qui a battu un empire? Ça existe où? Donc tu viens de donner une autre clé. Il s'agit ici d'une qualité contre une quantité. Donc Hanouka, c'est la guerre de la qualité contre la quantité. Et donc développez chez vous vos qualités et n'ayez pas peur d'être un petit peu. Toujours on se pose la question, ils sont trop nombreux. C'est marqué dans la Torah. Comment je vais pouvoir les battre? Non. Me'at o doche harbe chosher. Avec un petit peu de lumière, tu peux repousser beaucoup de noir. Nachon. Mais pourtant, ça marche. C'est ça le Nes. C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous fait une intervention divine qui dépasse l'entendement. Et on le dit. Natata me'atim be'yad rabim. Commander rien du tout. Sur une poignée de main, on battu un empire qui était beaucoup. Ça, c'est le secret de la fin des temps. C'est d'ailleurs la guerre de Gog ou Magog. C'est une guerre de la qualité contre la quantité. Et bien entendu, c'est la qualité qui gagne.
On retrouve les prémices avec les 36 guerriers du roi David. Un guerrier battait 1000 personnes.
Exactement. Exactement. De tous les degrés, je ne suis pas rentré dans tout, mais qui a inventé, par exemple, le jeu de cartes? Les Grecs. Combien de cartes il y avait dans le premier jeu? 36. Quand vous jouez aux cartes, en fait, vous jouez en fait avec des Grecs. Et il va falloir justement élever pour prendre ce qu'il y avait à l'intérieur de Descartes. C'est un jeu de mots, hein? Qui disait que le temps était objectif. Alors que Kant disait que le temps était subjectif. Et que Bergson nous a dit que Nissa, que le temps c'est le lien entre l'homme et l'endroit où il se trouve, qui est le plus proche de l'idée de la Torah. Je sais que je vous donne beaucoup d'informations aujourd'hui, un petit peu comme ça en l'air, mais ce n'est pas en l'air. Je sais que vous imprimez, Baruch HaShem, vous avez déjà le cerveau qui travaille depuis quelques mois, donc on peut maintenant passer à une vitesse supérieure. Alors, écoutez bien, ce sont des leçons pour la vie, pas parce que c'est Yoel qui vous les donne, tout simplement parce que ça vient des profondeurs de la Torah, et je veux que vous goûtiez à la beauté de cette Torah, et arrêtez de croire que la Torah, c'est un ensemble de lois. Tout est codé. C'est un code cosmique que l'Éternel nous a donné. Et si on ne sait pas voir ce code et le décoder, si on n'a pas le décodage, eh bien toute la Torah, c'est comme... Il n'y a pas de décodage. Donc il te faut un décodeur. Tu peux déconner en décodant. Mais il faut que ça reste lié au décodage. Ken. Quelles 8 Sephirot? J'en connais 10. Tu as raison. Il y en a 8 à partir des Midot. C'est-à-dire à partir du Da'at, comme tu dis, effectivement, il y en a 8. Mais tu n'as pas compté les deux premières. On peut compter comme ça aussi. Tu as raison de le faire.
Et le combat se joue au niveau de la Midot, c'est ça?
Il y a fait. Donc la Hanoukia, c'est qui? Elle représente qui? Comme personnage biblique que vous connaissez, Yafemod, Yosef Hatzadik. C'est pour ça que Beth Hillel nous dit qu'est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on a allumé Mosif Veolech, Yosef. C'est-à-dire tous les jours, tu rajoutes. Le mot Yosef, c'est rajouter. Donc le code de la Hanoukia, c'est Yosef. Tu peux marquer dessus Yosef Hatzadik. Donc quand tu rentres chez toi à la maison, tu as la Mezouza à droite et la Hanoukia à gauche. Qui est la Mezouza? Représente qui? Yaakov. Yaakov et Yosef. Et toi, tu passes au milieu. D'accord? Mezouza Beyamin, Ner Chanukah Besmol. D'accord? Mezouza, quelle lettre commence? Mem. Chon? Chanukia, Chanukah, Chet. Et toi, tu rentres avec ton tzitzit. Tu es un tzadik. Tzadik. Tzemach. C'est le nom du Mashiach. C'est-à-dire que tu traverses un champ magnétique quand tu rentres chez toi à Hanouka, qui te donne en fait une force messianique à découvrir et à dévoiler. Et après Hanouka, on devrait se rencontrer Be'ezrat Hashem et je devrais voir un autre niveau d'élèves. Tous des kabbalistes. Be'ezrat Hashem, un niveau. Si vous avez l'intention de devenir grand dans la Torah pour le peuple d'Israël, j'ai aucun souci, vous allez le devenir.
Okay. Ça, c'est que les parachutes de Yosef et de Yaakov.
Bien fait. Bien fait, Maud. C'est pour ça que toutes les parachutes de Yosef tombent en même temps que Hanouka.
Okay.
Okay. Le but, c'est d'arriver à la Malchut. Mais pour arriver à Yehuda, il faut d'abord le Yesod. Le Hanouka, c'est le moyen. J'ai dit tout à l'heure que la lumière n'a pas encore touché le sol. Et l'Ag BaOmer, c'est Yehuda. C'est déjà le sol. Toda Rabba, Sorotovot.